Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure d'Esprit Libre dans un instant. C'est tout de suite. J'étais en train de discuter avec Chloé Morin, qui est notre esprit libre de ce mardi et qui est accompagnée de Christophe Barbier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour,
merci d'être là. Alors, ce matin, on va évoquer plusieurs sujets, notamment, évidemment, la panthéonisation des époux manoukians. Avant ça, je voulais votre définition de ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est qu'un résistant pour vous? Parce qu'il y en a trois dans l'actualité aujourd'hui. Il y a évidemment Manoukian, son épouse. Puis il y a Julian Assange. Et puis il y a la veuve d'Alexis Navalny, puisque Navalny, évidemment, n'est plus là, pour résister au régime de Poutine. Qu'est-ce que c'est qu'un résistant à l'époque moderne?
Allez, je me lance. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Je crois qu'il faut vraiment distinguer. La bonne définition du résistant demeure pour moi celui qui s'oppose à un totalitarisme, c'est-à-dire à un régime qui empêche quiconque de penser autrement que ce qui est prévu par la ligne du parti. De ce côté-là, Manoukian contre les nazis, d'évidence, c'est un résistant. Navalny contre le poutinisme terrifiant, c'est aussi un résistant. Assange, c'est différent. C'est un lanceur d'alerte, c'est un dissident, c'est quelqu'un qui a dénoncé des dysfonctionnements et des crimes, sans doute, commis par les États-Unis, mais les États-Unis sont une démocratie. Assange aurait pu faire carrière politique aux États-Unis, militer pour telle ou telle cause, et notamment pour la transparence des informations qu'il a révélées.
C'est-à-dire qu'Assange faisait le jeu de la Russie. Hein,
il a choisi une autre méthode avec la publication brutale et totale des informations qu'il a données. On peut écouter ce que disent les États-Unis. Il a mis en danger des agents. Il y a peut-être des gens qui ont été arrêtés, tués, parce que il avait libéré ces informations. On peut penser qu'en effet, il a fait le jeu des puissances étrangères et que se croyant libérateur ou manipulateur lui-même, il était manipulé. Reste qu'aujourd'hui, il a droit à un procès équitable.
Chloé
et que
Morin.
S'il est extradé, il ne faudra pas qu'il tombe dans un système guantanamesque, si j'ose dire.
Chloé Morin, un résistant, qu'est-ce que c'est?
La définition, il y a aussi l'idée, il y a une dimension sacrificielle, en fait, dans la résistance. Il y a quand même l'idée qu'il place son idéal de liberté, de démocratie au-dessus de sa propre vie. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que les Iraniennes et les Iraniens qui manifestent depuis septembre 2022 sont des résistants.
La résistance suppose une prise de risque physique, suppose peut-être aussi de la souffrance.
Parce que justement, on s'oppose à des régimes qui ne sont pas démocratiques et qui restreignent les libertés. Clairement.
Quand je vous entends, j'ai le sentiment quand même le mot résistant aujourd'hui est un peu galvaudé. On l'utilise à toutes
Mais
les sauces.
Plus que galvaudé, n'oubliez pas que certains ont osé dire que le Hamas, c'était des résistants. Donc vous voyez comment le mot peut tomber dans les pires acceptions si on veut en faire un usage idéologique.
Non, mais le moindre activiste végétarien devient un résistant. Donc si vous voulez, enfin, on y reviendra peut-être dans le livre de Chloé Morin qui publie « Quand il aura 20 ans, un essai sur le wokisme » dont on parlera dans la dernière partie de notre discussion. J'en viens donc à la panthéonisation des époux manoukians. C'est demain, Badinter aux Invalides la semaine dernière, Manoukian au Panthéon demain. Nous allons de commémoration en commémoration et le scénariste de tout cela, c'est le président de la République, Chloé Morin.
Oui, alors lui, ça lui permet sur un plan strictement stratégique et politique de notamment remettre le passé dans la figure de Marine Le Pen. Et ça, c'est quand même assez manifeste. Il appuie sur le où ça fait mal à chaque fois. Il manque pas d'appuyer où ça fait mal. Et elle, en retour, tient à assister à cette cérémonie pour bien affirmer qu'elle ne se reconnaît pas dans l'héritage qui est celui du parti que lui a légué son père. Donc je trouve qu'il y a dans cette espèce de combat à distance quelque chose de symbolique qui est important parce que à chaque fois qu'elle affirme ce genre de position, elle l'avait déjà fait lors de la manifestation contre l'antisémitisme, où elle avait dit, bah non, nous, notre place est avec ceux qui manifestent contre l'antisémitisme. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle parvient à enfoncer un peu plus un coin dans le discours de ceux qui disent qu'elle est d'extrême droite. quelque part et qu'elle défend les idées que défendait son père.
Christophe Barbier, je me fais l'avocat du diable en voie de dédiabolisation, mais à trois reprises qui ont été rappelées par Chloé Morin, il y a eu la manifestation contre l'antisémitisme, il y a eu la cérémonie aux Invalides pour Robert Badinter, Place Vendôme, et demain Manoukian au Panthéon. Est-ce qu'on n'est pas dans une bataille de sectaires avec le Rassemblement National qui siège à l'Assemblée, qui veut se rendre à des manifestations qui ont une envergure nationale et dont les autorités républicaines veulent l'exclure? Est-ce qu'on n'est pas à sectaire, sectaire et demi?
Oui, c'est gagnant-gagnant, si j'ose dire, dans cette bataille des sectaires. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron sait que son autorité vient de l'idée qu'il est face à l'extrême droite, qu'il est le rempart face à l'extrême droite. Donc il faut rappeler en permanence ce danger qu'est l'extrême droite. Danger réel, parce qu'ils sont très en tête des sondages pour les élections européennes, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, à travers l'Humanité, a lancé une sorte d'appel à la gauche. Est-ce que vous allez me laisser tomber face au Rassemblement National? Et puis, danger simulé, figuré, grossi, diabolisé, pour montrer qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Mais je pense que le président, là, a raté quelque chose. D'abord parce qu'il fait preuve d'inconstance. Ils étaient dans l'arc républicain au moment des entretiens de Saint-Denis, ils ne le sont plus aujourd'hui. Le RN est dans l'arc républicain selon Attal, mais pas dans l'arc républicain selon Macron. Ça donne l'impression d'un certain flou et d'un manque de cohérence. Par ailleurs, quand la famille Badinter demande au RN de ne pas venir, c'est une demande qui ne peut pas être refusée. Et Marine Le Pen a eu beau jeu de dire « nous respectons ». Là, c'est pas la famille Manoukian. C'est une panthéonisation. Toutes les instances de la République sont convoquées. C'est le protocole. En quoi le président de la République leur fait une leçon de morale en disant, par décence, je ne viendrai pas. On peut très bien ne pas être communiste, ne pas être d'accord forcément avec les motivations de Manoukian à l'époque et dire c'est un héros, c'est un martyr. La résistance n'a pas été un bloc. Entre Jean Moulin et Pierre Brossolette, il y avait des détestations profondes. Il y avait des lignes politiques qui se faisaient la guerre à l'intérieur de la résistance tout en menant de manière commune une guerre contre l'occupant. Donc le président de la République ne veut pas qu'on fasse le reflet de cette subtilité. Et de ce côté-là, je pense qu'il a commis une erreur qui va servir Marine Le Pen, parce qu'elle va venir. Et ça lui servira de venir pour Manoukian, comme ça lui a servi de ne pas venir pour Badinter. Il l'a renforcé en croyant l'affaiblir.
Chloé Morin, vous qui scrutez l'opinion française, vous l'avez fait pour la Fondation Jean Jaurès et vous le faites dans vos travaux personnels aujourd'hui. Que vous inspire cette capacité française à introduire de la polémique quand il s'agit de faire commémoration et de faire union et de faire fédération?
Alors, aujourd'hui, la politique n'arrive plus à unir. En fait, il y a un tel rejet des responsables politiques qu'il est en fait très rare de trouver des événements, et même jusqu'aux cérémonies telles que celle-là, on n'arrive plus à avoir une sorte de communion, d'union, autour d'un certain nombre, soit d'événements, soit de personnalités, soit de valeurs. C'est clair. Et c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, en partie, que les gens n'en peuvent plus et qu'une grande partie des Français expliquent qu'ils désertent le débat politique. C'est un Français sur deux qui souffre aussi de fatigue informationnelle. Tout ça participe à la fatigue informationnelle.
Les Français pensent aussi, pardon de vous couper, Chloé, de vous couper la parole, Chloé Morin, mais qu'on se dispute pas dans les cimetières, tout simplement.
Oui, bien sûr. Et quelque part, quand ils regardent le spectacle de l'Assemblée, c'est un spectacle qui, bien souvent, les rebute, voire les dégoûte. Alors, tous les responsables politiques ne se comportent pas de la même manière. J'ai l'impression, tout de même, on a cité le Rassemblement National, il faut citer la France Insoumise. Ce que l'on voit dans les sondages, c'est que la France Insoumise, comme force politique, a vu son image considérablement dégradée du fait de la rhétorique et de la stratégie de la conflictualité permanente qu'elle emploie. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait de tort à la gauche, en dépit du fait que la gauche devrait être sur une pente ascendante, parce que après tout, nous sommes dans une crise du pouvoir d'achat. On a vécu une réforme des retraites que l'immense majorité des Français rejetait au nom de l'idée de la justice sociale. Donc quelque part, la gauche devrait bien s'en sortir, et ça n'est pas le cas. Et quand on demande aux Français qui est le pire entre le RN et LFI, les deux sont à touche-touche, et souvent le LFI passe même devant.
Christophe Barbier, dans cette affaire du Panthéon, j'ai l'impression que Emmanuel Macron a préparé ça bras dessus bras dessous avec le Parti communiste.
Bien sûr, c'était pour lui l'occasion d'abord d'envoyer un message. Il avait déjà envoyé un message à propos de la guerre d'Algérie en reconnaissant que l'armée avait tué un militant communiste contre l'Algérie française. Et là, il envoie un autre message. Je pense que Macron continue le « et en même temps », mais dans un « et en même temps » dégradé par sa perte d'autorité, et ce « et en même temps » devient un peu tout et son contraire, et se transforme régulièrement en nini, ni extrême droite, ni extrême gauche. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour une suite de quinquennats qui mériterait d'avoir plus de cohérence. Nous sortons d'une séquence où Emmanuel Macron a été accusé de pencher à droite, avec un gouvernement marqué par des recrues de droite, et voici que d'un seul coup, il donne un coup de barre à gauche en faisant ami-ami avec les communistes par-delà la figure incontestable, bien sûr, de Manoukian. Ça montre un président quand même qui est affaibli. Ça commence à ressembler à de la godille.
Je passe à un tout autre sujet, mais il est aussi sujet à débat. C'est votre livre, Chloé Morin. Il est paru chez Fayard il y a quelques jours. Ça s'appelle « Quand il aura 20 ans ». Vous vous adressez, j'imagine, à un petit garçon et vous pensez à son avenir. Et c'est une réflexion sur ce qu'on appelle le wokisme. Alors, tiens, en une seconde, Christophe Barbier, comment vous définissez le wokisme ? Et ensuite, on approfondira cette définition avec Chloé Morin.
Pour essayer de faire simple, le wokisme, pour moi, c'est quand on assigne quelqu'un à ce qu'il est, sans regarder ce qu'il pense ou ce qu'il fait. Vous êtes femme, vous êtes noire, vous êtes homosexuel, eh bien, vous n'avez pas le choix, vous devez avoir des combats qui sont liés à cette essence-là. C'est emprisonner quelqu'un dans son identité, c'est horrible.
Chloé Morin, on relève la copie de l'élève Barbier.
Oui, disons que ça, c'est le résultat du wokisme, c'est ça. C'est-à-dire, après, la manière dont ils définissent leur combat, c'est qu'ils partagent le monde entre les dominants et les dominés. Et le but du jeu, évidemment, c'est de renverser les rapports de domination. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de rapport de domination dans le monde, ça n'est pas qu'il n'y a pas de discrimination, c'est que ces catégories sont étanches et que, effectivement, elles essentialisent les personnes. Et donc, si vous êtes, par exemple, Israël est un dominant. Et c'est un pays qui colonise la Palestine. Et donc, il y a un angle mort sur le fait que les Juifs ne peuvent pas être des victimes de l'antisémitisme, puisqu'ils sont uniquement des dominants. Donc, on ne condamne pas l'antisémitisme. Vous voyez, les musulmans sont considérés comme des dominés, puisqu'ils sont victimes d'un certain nombre de discriminations. Mais du coup, ils ne peuvent pas être dominants, donc on ne critique pas la dimension patriarcale de la religion musulmane.
Vous êtes en train d'expliquer que le mode de pensée wokiste, en fait, il empêche de penser, tout simplement.
Il empêche
la pensée complexe.
C'est ça, exactement. Et vous avez aussi une autre dimension de ce combat que l'on voit très fortement, je trouve, depuis le 7 octobre, c'est l'idée que au nom du renversement des rapports de domination, la fin justifie tous les moyens. Et jusqu'à la violence, jusqu'à la censure, on le voit très fortement aujourd'hui dans les débats qu'il y a autour des violences sexuelles et sexistes dans le cinéma. Il y a la tentation de l'effacement, la tentation de l'écartement social, voire de la mise à mort professionnelle.
L'effacement de la procédure judiciaire, tout simplement, ou de son respect, en tout cas.
Le contournement total de la justice, de la présomption d'innocence. Donc, tous les moyens sont bons. Et ça, c'est un problème qui, du coup, fissure nos démocraties et fissure avant tout la gauche, puisque le wokisme s'inscrit dans la gauche.
Chloé Morin, ce qui m'intrigue, c'est le titre de votre livre, « Quand il aura 20 ans ». Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de parler de wokisme un peu en avance, parce qu'il n'est pas encore en âge de comprendre, ce bébé, et de lui en parler, de faire un livre qui lui parle de cela? Vous auriez pu lui parler de la planète, de l'environnement. Pourquoi le wokisme à un enfant qui est en bas âge,
alors,
me semble-t-il?
Dans le précédent livre, j'avais consacré plusieurs chapitres à la question écologique et son articulation avec la question démocratique. Donc je me suis dit qu'il fallait, j'y reviendrai peut-être, mais il fallait quand même changer de sujet. Et en fait, j'en avais un peu marre de ces gens qui me disent « le wokisme, ça n'existe pas ». Vous avez deux catégories, ceux qui vous disent que le wokisme n'existe pas et ceux qui vous disent que le wokisme est partout. Donc j'ai commencé à creuser la question et à me dire « bon, il faut le quantifier ». Ce que j'ai trouvé, c'est que effectivement, les activistes woke sont très peu nombreux. En revanche, les idées qu'ils prônent sont parfois très répandues. Donc, ça n'est pas un non-sujet. Et pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ça ? C'est parce que nous touchons, à mes yeux, à des sujets fondamentaux. Je parlais tout à l'heure de la liberté d'expression, la censure, la liberté de création. On parle du rapport à la laïcité, parce que il considère que la laïcité est un instrument d'oppression d'un certain nombre de minorités. Donc, il y a un rapport dévoyé à la laïcité. On parle évidemment des violences sexistes et sexuelles et de la manière de les combattre. Donc, là aussi, c'est un combat majeur. Et donc, quand à gauche, on me dit que le wokisme n'est pas un sujet, j'ai plutôt l'impression que nous sommes là sur des valeurs fondamentales et constitutives de ce qu'a toujours été la gauche, puisqu'on parle du combat pour l'égalité. Et c'est un sujet d'autant plus fondamental que le rejet que le wokisme suscite dans la population est en train de faire le jeu du Rassemblement National. Et que moi, j'ai en ligne de mire quand même 2027. Et je pense que le rejet du wokisme peut participer, de la même manière qu'il a participé à l'élection de Trump aux États-Unis, qu'il peut participer à l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir.
Chloé Morin, quand il aura 20 ans, c'est paru chez Fayard. C'est
une réflexion. Il faut lire les dystopies, hein.
Sérieuse.
La poupée barbue et puis la censure de Blanche-Neige, c'est des passages, mais hilarants.
Barbie par Barbier. Voilà. D'une certaine façon. Christophe, à la semaine prochaine. Merci Chloé Morin d'être venue nous parler de Quand il aura 20 ans, paru chez Fayard. On se quitte avec quelqu'un qui n'a pas d'identité, lui. C'est Mon nom et personne. C'est Terence Hill dans le film éponyme. Scénario Sergio Leone, musique Ennio Morricone. Ça passe ce soir sur C8 à 21h20. Je me suis dit que Mon nom et personne, c'est pas mal pour ne pas parler de wokisme.